Bonjour, c'est la chronique européenne de Geneviève Saint-Hubert du Centre d'information Europe Direct de la Maison de l'Europe sur Radio Occitanie. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur la péniche Didascalie. Nous parlons toujours de tourisme dans l'Union européenne et nous allons avoir donc une vision de ce que fait l'Europe pour les citoyens en matière de tourisme, de protection et de normes, notamment pour la qualité des eaux, etc. Mais avant cela, je veux vous rappeler que le 28, il y aura pour les entreprises à la CCI de Toulouse, à la Chambre de commerce et d'industrie, donc de Toulouse, 2 rue Alsace-Lorraine, eh bien une conférence débat sur le plan Juncker, c'est-à-dire le plan d'investissement de l'Union européenne pour les entreprises. Donc l'intitulé, c'est « Quel financement pour mon entreprise ?» L'entrée est libre, vous devez vous inscrire sur le site, donc vous trouverez toutes les informations sur europe-toulouse.eu ou sur le site de Entreprise Europe à la CCI de Blagnac ou alors vous contactez la CCI de Toulouse. Donc, n'hésitez pas, c'est à 14h30. Vous avez une idée d'investissement, un projet. Eh bien, il y aura donc à côté du représentant donc, de la Commission européenne qui s'occupe de ce plan d'investissement, la Banque européenne d'investissement sera représentée, BPI France et la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, donc ça, c'est une information importante pour les entreprises. Mais tout de suite, nous retournons écouter donc ce que fait l'Europe pour les citoyens en matière de tourisme.
Précisément, donc, qu'est-ce que fait l'Union européenne pour le tourisme ? Ça ne va pas être un cours magistral d'une demi-heure, mais voilà, c'est juste histoire de vous rappeler un petit peu des mesures concrètes que fait l'Union européenne donc pour le tourisme d'un point de vue pour les voyageurs, et également donc pour les acteurs du secteur touristique. Alors, il faut savoir, bon, pour le grand nombre d'étudiants en tourisme ou professionnels du secteur, vous le savez peut-être, mais l'Europe reste la première destination touristique au monde. Donc en fait, elle représente 50% du tourisme mondial. Et c'est 500 millions de touristes pour les seuls 28 pays de l'Union européenne. Donc bien sûr, la France est en tête, toujours en tête, devant l'Espagne et l'Italie, même s'il y a de nouvelles destinations touristiques en Europe qui commencent à émerger et donc à absorber d'autres touristes. Le visage des touristes a un petit peu évolué. C'est vrai que apparemment, donc c'est plutôt maintenant des personnes d'un certain âge qui vont voyager en Europe, des touristes européens qui vont rester au sein de l'Union européenne, et les jeunes auront tendance à partir à l'extérieur de l'Union européenne. La région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, laquelle nous faisons partie, est la quatrième région touristique de France, avec un grand littoral et une zone de montagne. Alors, donc, ce secteur touristique, ben, du coup, les conséquences économiques sont très intéressantes pour l'Europe, puisque au sens strict, il représente 1,8 million d'entreprises, donc essentiellement des très petites entreprises et des PME au sein de l'UE. Donc ça représente en fait 5% du PIB, 5,2% de la population active. Or, comme c'est un secteur très transversal, donc avec des liens étroits avec d'autres services, au final, il représente 10% du PIB de l'UE et plus de 12% des emplois dans toute l'Union européenne. Donc il y a des très forts enjeux pour l'Union européenne en termes d'emploi, en termes de croissance, en termes bien sûr de développement durable et en termes de cohésion régionale. C'est pour ça que... Donc par conséquent, depuis 2009, depuis le traité de Lisbonne, en fait, le tourisme a été introduit en tant que compétence explicite au sein de l'Union européenne. Donc c'est une compétence d'appui et de coordination. pour encourager un environnement favorable au secteur. Hein. Donc, du coup, il va y avoir des vrais soutiens de lieux auprès des acteurs du secteur touristique et favoriser aussi la coopération entre les États membres et entre les régions dites touristiques et ensuite d'excellence touristique. On le verra ensuite. Alors, on va passer aux choses concrètes maintenant. Donc, des mesures concrètes, en fait, de... Comment l'Union européenne aide les voyageurs, qu'ils soient au sein de l'UE ou pour les voyageurs qui viennent d'autres pays de l'Union européenne. Bon, ben, la première chose, vous le savez tous, c'est que pour voyager en Europe, lorsqu'on est un citoyen européen, la carte d'identité suffit, ce qui facilite quand même beaucoup le passage. L'espace Schengen, donc, qui compte 22 pays, bien sûr, bah, pas besoin de visa, pas besoin de passeport. Je fais quand même une petite parenthèse parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qu'il y a de nouveau quelques contrôles aux frontières, mais c'est une situation exceptionnelle due au terrorisme en Europe. Donc on verra, l'Union européenne est en train de réfléchir à comment préserver Schengen, mais aussi la sécurité des voyageurs et des citoyens européens. Il y a aussi un code européen des visas, c'est-à-dire que pour une cinquantaine de pays dans le monde, lorsque l'on est citoyen européen, nous n'avons pas besoin de visa pour des séjours de courte durée. Donc séjour de courte durée, c'est 3 mois, 90 jours. Et il y a un principe de réciprocité, c'est-à-dire que les personnes qui viennent d'une cinquantaine de pays hors Union européenne n'ont pas besoin de visa pour venir en Europe et circuler donc à l'intérieur de l'espace Schengen. Juste une petite parenthèse, vous ne voyez pas la carte, mais au sein de l'UE, donc il y a pour le moment encore 28 pays, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie ne font pas partie de Schengen. Même si, en tant que citoyen européen, on a des facilités pour rentrer dans ces pays, voilà, ils ne sont pas au sein de Schengen à proprement parler. Il y a aussi un passeport européen pour les animaux de compagnie. Je ne sais pas si vous le saviez, si vous voulez voyager avec votre chat, votre chien, le furet aussi, enfin, c'est des exemples que j'ai vus sur les sites de la commission, il suffit de demander à son vétérinaire un visa, un passeport pour son animal et vous pouvez vous rendre dans tous les pays de l'UE avec votre animal. Et évidemment, il n'y a pas de restrictions alimentaires au sein de l'UE. Donc ça, c'est aussi des choses intéressantes quand on fait du tourisme. Ça ne vaut pas pour les cigarettes et l'alcool, donc ils sont soumis à des restrictions spéciales. Alors, l'Europe... Donc on continue avec les mesures concrètes. Donc l'Europe vous protège et vous porte assistance aussi lorsque vous voyagez. Donc tout d'abord, il faut savoir que si vous, en tant que citoyen européen, si vous voyagez en dehors des frontières de l'Union européenne, si vous avez un souci, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mission consulaire d'un autre État membre de l'UE. Et on prêtera assistance. C'est des choses aussi intéressantes à savoir quand vous n'avez pas de représentation consulaire française, donc pas d'ambassade, pas de consulat dans un pays ou à proximité en tout cas. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mission d'un autre pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est quand même des choses intéressantes pour la protection des voyageurs.
La France, ça va. C'est le Luxembourg, déjà, ça peut être intéressant si on est luxembourgeois. Des consulats français, il y a quand même pas mal.
On vous protège aussi si vous arrive un petit souci de santé, un petit accident. Vous avez donc la carte européenne d'assurance maladie. Je suppose que la plupart d'entre vous la connaissent, mais c'est quand même aussi quelque chose, un droit et surtout une facilité pour voyager. Ça évite d'avancer des frais de santé. Et s'il n'a pas possibilité de les faire avancer, en tout cas d'avoir un remboursement très rapide. Parce que ça peut revenir... très très cher, très rapidement.
En Finlande, ça marche.
Ok, donc Claire a l'exemple de la Finlande.
Je teste tout pour
faut qu'on puisse certifier. Là.
Quelle abnégation.
Pour la petite chose pratique, c'est que cette carte est bien sûr gratuite. Vous la demandez directement sur votre compte Amélie. Si vous n'avez pas le compte directement à votre sécurité sociale. Vous avez immédiatement un papier et la carte arrive chez vous, sinon sous une quinzaine de jours au format de la carte. Mais si vous partez le lendemain, vous pouvez la demander la veille pour le lendemain. Vous avez une petite attestation papier. Il y a aussi également, donc, dans le même ordre d'idée, le numéro unique d'urgence, hein, le 112. Bon, ça, de toute façon, vous l'avez tous déjà préenregistré sur votre téléphone. Mais c'est un numéro qui fonctionne dans tous les pays de l'Union européenne. L'Union européenne a également pris de nombreuses mesures en termes de sécurité, notamment pour les incendies, les hôtels, à des mesures incendies pour les hôtels qui étaient déjà construits. Donc maintenant, c'est une obligation pour le secteur du tourisme. Et également la qualité des eaux de baignade. Donc, sachez que l'Agence européenne de l'environnement contrôle...
Parle à la télé.
D'accord. Contrôle, du coup, la qualité de vos eaux. Et qu'au sein de l'Union européenne, on a une très bonne qualité d'eau de baignade. Environ 95% des eaux de baignade sont excellentes, selon l'Agence européenne du développement. Pour la petite anecdote, le plus mauvais élève est la France. La Méditerranée notamment. Donc là, le petit logo, c'est le logo du pavillon bleu que vous avez sûrement vu. Et en termes de sécurité, il faut savoir que l'espace aérien européen est le plus sûr. Et que des compagnies qui ne satisferaient pas aux critères de sécurité et de sûreté établis par l'UE n'ont pas droit de... survoler et de venir.
Voilà, eh bien, nous continuerons donc à nous informer sur ce sujet important, puisqu'il concerne autant les transports que le numéro d'urgence, que les infrastructures que finance l'Union européenne en matière touristique. Mais pour l'instant, je vous dis à bientôt. Ciao, tchuss. Bye bye, adi chats.